France Culture.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Culture Monde, le magazine international de France Culture, préparé avec Mélanie Chalandon, Barthélémy Gaillard, Christine Anger, Sacha Mattei et Gwendoline Troiano, réalisé par Sam Bakiast et à la technique ce matin, c'est Noé Chaban. C'est le dernier volet de notre série consacrée aux diasporas chinoises dans le monde à l'occasion du nouvel an lunaire. Nous sommes déjà le 2 de l'année 4723, dis donc. Aujourd'hui, le blues des étudiants chinois partis étudier à l'étranger pour se donner plus de chances, mais pris entre deux feux, le contrôle de Pékin et les soupçons qu'ils éveillent dans leur pays d'accueil.
Je pense que le fait de vivre à l'étranger nous ouvre l'esprit. Ce n'est pas simplement une affaire de connaissances, c'est aussi une question d'expérience. Si je rentre en Chine, je pense que j'aurai un avantage par rapport aux étudiants restés là-bas.
Je ne dis pas que tous les étudiants chinois sont des espions. Mais nous avons des preuves que le Parti communiste chinois utilise certains de ses étudiants dans nos universités comme un moyen d'influer sur nos activités.
Nous pouvons penser par nous-mêmes et nous aimons l'Australie et la Chine. Nous ne sommes pas obligés de choisir. La plupart des membres de notre association étudiante sont pro-Chine, mais cela ne signifie pas être aux ordres du Parti communiste.
Ce sont des photos postées par de jeunes Chinois sur les réseaux sociaux qui les montrent visage caché ou les yeux fermés, affalés sur des bancs, dans des escaliers, sur des pelouses de jardins publics, comme des poupées de chiffon en uniforme d'étudiants. Une série de selfies et de clichés souvent pris juste après l'obtention d'un diplôme et que publie ce mois-ci la revue Cometa. Nouvelle mode d'une jeunesse désenchantée qui danse sur les cendres d'une économie chinoise carbonisée, écrit le romancier Alexandre Labruf. 11 600 000 diplômés sortent chaque année des universités chinoises, un taux de chômage officiel qui atteint chez les jeunes 20,8%, c'est-à-dire sans doute beaucoup plus. Alors que faire ? Immortaliser la désillusion. Ces jeunes auraient-ils fait au moins une partie de leurs études à l'étranger, que leur avenir n'en eût pas nécessairement été plus assuré ? Mais ils sont plus d'un million à tenter chaque année leur chance, bénéficiant d'une bourse pour rejoindre des universités aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Australie, en Malaisie. Un mouvement de masse devenu aussi une ressource financière importante pour les universités occidentales et l'objet de sérieuses inquiétudes dans les pays concernés qui redoutent des opérations d'influence de la part du régime chinois. Le blues des étudiants chinois, nous en parlons ce matin avec nos invités. Bonjour Jérôme Doyon.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes politiste au Centre d'études en relations internationales, le CERI, et vous êtes ici en studio avec Claudia Starita. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes sinologue, chercheuse à Sciences Po Paris. Vous avez enseigné pendant 4 ans en Australie auprès d'étudiants chinois entre 2013 et 2017. Vous avez donc un regard plus sociologique, disons, sur les parcours de ces étudiants et étudiantes. Alors, qu'est-ce qui les dispose, qu'est-ce qui les incite, ces étudiants, à faire leurs études à l'étranger plutôt qu'en Chine ?
Alors, ça dépend. Il y a plusieurs étudiants chinois, plusieurs communautés, disons, des étudiants chinois qui partent à l'étranger. Je dirais la plus nombreuse est celle des étudiants qui n'arrivent pas à rentrer dans le système universitaire chinois qui est extrêmement compétitif et donc ils ont besoin d'un diplôme et ils cherchent un pays tiers pour prendre ces diplômes et décider après s'y rester dans les pays ou rentrer en Chine. Après, il y a ceux qui cherchent une expérience de vie différentes et dont là les dynamiques peuvent être différentes, donc où ils ont un projet professionnel spécifique qu'ils cherchent à mettre en œuvre, ou ils partent juste pour visionner cet Occident multiple, les multiples facettes dont ils ont entendu parler en Chine. Et il y a aussi, je pense qu'ils deviennent de plus en plus nombreux, les étudiants qui partent pour quelques années en échange, et donc ils se laissent vraiment la porte ouverte pour rentrer dans les pays après cette expérience. Donc, essayer de garder toutes les opportunités de deux expériences universitaires.
Est-ce que les cadres du Parti communiste chinois envoient leurs enfants à l'étranger pour étudier?
Ça, c'est depuis longtemps. Tu m'en laissais, on les a, on peut les croiser en cours. C'est quelque chose de très normal. Je dirais, il y a eu un moment, mais peut-être encore aujourd'hui, où les États-Unis, et notamment les universités des Ivy League, accueillent beaucoup d'étudiants, des fils des cadres. Après, ça dépend des cadres à quel niveau. Mais des cadres, même de moyen niveau, donc au niveau de la Provence, oui, ils peuvent envoyer les enfants en Australie. Il y en a en France aussi, je l'ai croisé.
Donc, la fille de Xi Jinping, elle-même, elle a étudié
où? La fille de Xi Jinping, elle est à Harvard. Donc, elle a fait ses études à Harvard. Et apparemment, aujourd'hui, elle est de nouveau à Harvard pour un doctorat.
D'accord. Donc, elle est à Harvard. Elle a choisi une de ces universités privées des États-Unis, toujours très prisées par les étudiants chinois. À Stanford, par exemple, un étudiant international sur trois est originaire de la République populaire de Chine. Il y a Oxford, Cambridge au Royaume-Uni aussi. Jérôme Doyon, est-ce que les étudiants chinois sont tous issus des familles les plus aisées de Chine?
Non, pas forcément. Enfin, bon, la majorité des étudiants chinois qui partent à l'étranger financent eux-mêmes ou leur famille leurs études. Donc, c'est forcément des gens qui ont les moyens de payer. Alors, si c'est aux États-Unis, c'est encore plus. Mais même en Angleterre, disons 20 000 pounds par an, 20 000 livres leur scolarité. Donc, il faut quand même avoir les moyens. Après, il y a aussi beaucoup de systèmes de bourses, en fait. Donc, le gouvernement chinois, depuis les années 90, fournit de plus en plus de bourses pour ses propres étudiants, pour qu'ils partent à l'étranger, dans l'idée d'acquérir des connaissances, des savoir-faire qui vont ensuite être utiles dans la modernisation économique du pays. Donc, la majorité viennent, enfin, de familles qui peuvent se le permettre, mais il peut y avoir aussi des gens qui le font grâce à leur excellence universitaire et des bourses du gouvernement chinois.
Excellence universitaire, la question du mérite est très mise en avant par le régime chinois. Alors ces bourses y ont accès des étudiants chinois indépendamment de l'université qu'ils choisissent, donc nécessairement beaucoup parmi les moins aisés vont chercher les universités qui coûtent le moins cher, où les frais d'inscription sont moins élevés, comme ce jeune interrogé par Channel News Asia qui a choisi Kuala Lumpur.
En Malaisie, les frais d'inscription dans les universités ont aussi augmenté de 10 à 20% environ. Mais en comparaison avec d'autres pays comme les États-Unis, le Royaume-Uni ou l'Australie, le coût des études et plus largement le coût de la vie est bien plus bas ici. Aujourd'hui, en Chine, presque tout le monde a une licence. Donc si tu veux avoir un meilleur emploi et un meilleur salaire, c'est indispensable d'avoir un master aujourd'hui. C'est pour ça que je suis parti.
Est-ce qu'il est obligatoire, Claudia Starita, d'avoir eu le diplôme de fin d'études, le Gaokao, l'équivalent de notre bac en Chine, pour pouvoir partir étudier à l'étranger?
C'est plutôt pour rentrer dans le système universitaire. Et là, le discours
chinois.
Et les discours qui fait l'étudiant est un discours que je commence à écouter souvent pour tout ce qui est les opportunités universitaires dans l'Europe de l'Est. Dans l'Europe de l'Est aussi, commence à devenir un peu une référence pour les étudiants chinois qui cherchent des pays où les niveaux de vie, les coûts de la vie est plus bas par rapport aux pays anglophones, et aussi le frais universitaire sont assez basses.
Bah, la Hongrie, notamment Viktor Orban, leur ouvre grand les portes avec un campus entièrement dédié.
Exactement. Donc là aussi, le fait qu'il y a de plus en plus de pays qui sont plus ou moins proches de la Chine leur facilite la vie.
Jérôme Doyon, vous disiez tout à l'heure que la Chine a mis en place un système de bourse à l'étranger, mais depuis quand est encouragé ce système là, partir étudier à l'étranger, puis surtout depuis quand le régime chinois a les moyens de payer ça?
C'est-à-dire que ça a augmenté de manière assez drastique depuis en fait la fin des années 70, surtout les années 80. Donc à la fin des années 70, on avait moins de 1000 étudiants chinois à l'étranger. Maintenant, on en a 1 million. Donc voilà, vous voyez l'évolution.
Même si quand vous regardez les chiffres dans le détail, c'est très difficile de comprendre combien il y a d'étudiants chinois où, alors qu'ils ont des visas et que ça devrait être assez facile.
Alors oui, il y a des sources différentes. Ça peut être lié aussi à comment on définit les étudiants, dans quel type de formation, etc. Et il y en a qui peuvent étudier sur différents types de visas en fonction des pays. Donc parfois, c'est un petit peu compliqué. Mais bon, maintenant, ce chiffre, en tout cas de 1 million, circule beaucoup. Sur l'évolution, oui, donc ça, au milieu des années 80, l'État parti chinois accepte l'idée que des étudiants peuvent partir à l'étranger en finançant eux-mêmes leurs études. Avant, c'était que des gens justement qui étaient envoyés par l'État parti. Et depuis les années 90, du coup, il y en a de plus en plus. Ils deviennent plus nombreux que ceux qui partent avec des financements, justement, d'État parti, même si cela augmente aussi. Et là, on voit, à partir des années 90 et 2000, vraiment cette explosion. Et du point de vue de l'État, à cette époque-là, ça change un petit peu par la suite, mais c'est vraiment l'idée que c'est une ressource en termes d'innovation et une ressource économique. Du coup, ces tortues de mer, c'est comme ça qu'elles sont appelées en chinois, qui sont amenées à revenir. Donc, oui. Ces tortues de mer, quand ils reviennent, peuvent être une main-d'œuvre qualifiée qui amène des connaissances nouvelles, supplémentaires, pour insuffler dans l'économie chinoise.
Alors, est-ce que ça veut dire que le PCC privilégie certaines filières, certaines formations? Claudia Astarita préfère envoyer des étudiants dans des filières qui finiront par payer en retour, entre guillemets.
Alors, je pense que toutes les filières peuvent générer des retours au niveau du parti. Je pense qu'il y a quand même des intérêts différents par rapport aux catégories et donc les études que ces étudiants font. Un point que j'aimerais préciser, que j'ai vécu cette évolution en Australie pour ce qui concerne les systèmes de bourse, que je trouve aussi très malin de la part du parti, c'est que quand je suis arrivée à Melbourne, il y avait beaucoup d'étudiants qui avaient une bourse pour toute la période de leurs études et une bourse qui était financée par les partis, bien évidemment, et ils étaient tous membres du parti. Donc finalement, l'accès au parti était fonctionnel à obtenir un financement pour toutes les études.
Est-ce que vous pensez d'ailleurs, entre parenthèses, pardon Claudia Astarita, que ces étudiants avaient adhéré au parti pour obtenir la bourse ou que seuls les étudiants qui adhéraient déjà au parti pouvaient obtenir une bourse?
Alors, il faut préciser que l'étudiant ne peut pas demander l'accès au parti. C'est plutôt l'université qui sélectionne les meilleurs et qui propose aux étudiants qui ont les meilleurs résultats d'intégrer le parti. Après, les étudiants sont pragmatiques. Donc oui, l'intégration au parti signifie énormément d'opportunités et ils acceptent. Sauf que 2013, c'était possible de le dire. Moi, je posais toujours cette question en cours pour donner l'impression, pour faire comprendre les étudiants australiens que c'était normal pour les Chinois d'être membres du parti. Et j'ai demandé aux étudiants chinois, les classes sont plus ou moins partagées, 50% des Australiens, 50% des Chinois. Et je demandais qui est membre du parti et plus que la moitié de la partie chinoise des étudiants chinois en cours étaient membres du parti.
Et ça ne les dérangeait pas de le dire publiquement devant tout le monde?
Aujourd'hui, je pense que personne dirait dans un amphi oui je suis membre du parti parce qu'il serait tout de suite considéré un espion envoyé par le président Xi Jinping lui-même. Mais là c'était un projet différent, donc la bourse qui venait du parti. Aujourd'hui je vois de plus en plus des bourses données à des doctorants, donc pas que des undergraduates, des doctorants, mais pour passer 2 ans. Avant, c'était 1 an. 2 ans dans les pays. Comment ça fonctionne? Les doctorants commencent son doctorat en Chine, dans une université chinoise, sur un projet. Contacte un interlocuteur, un référent en Australie, propose de passer 2 ans, de faire 2 ans de recherche dans les centres où il est et de revenir en Chine après.
Donc, raccourcir les séjours, mais pourquoi? Dans quelle intention?
Pour se mettre, déjà là, c'est financé à 100%, donc la bourse finance aussi les coûts d'accueil de l'étudiant dans les pays hôtes, donc dans ces cas-là l'Australie, mais ça fonctionne comme ça dans d'autres pays également, et ça permet de reprendre les projets en Chine après. Donc au lieu de donner la possibilité de rester sur place, c'est plutôt après, nous on rentre, nous, et tout ce que l'on a appris, et tout ce qu'on a exploré et connu dans ces moments de séjour en Australie ou ailleurs.
Donc, ils rentrent en Chine pour terminer leurs études et décrocher un diplôme local. Jérôme Doyon, est-ce que vous aussi, vous avez déjà rencontré des étudiants chinois à qui se posait ce dilemme-là de conflit de loyauté aussi, qui peuvent se poser par ces considérations? C'est-à-dire savoir si on va rester longtemps quelque part et peut-être fâcher, non pas le parti, mais la commission qui a octroyé la bourse et tous ceux qui attendent de ces étudiants qu'ils rentrent en fait assez vite.
Oui, bah c'est vrai que c'est un peu lié à la spécificité de la condition étudiante, le côté transitoire et est-ce qu'on va rentrer au pays ensuite ou pas. Pour ceux qui ont des bourses, alors bon, il y a plein de formats en fait de bourses diverses et variées. Un qui est assez classique, c'est les bourses fournies par, en anglais, on appelle ça le China Scholarship Council, en général on appelle CSC, tout le monde connaît CSC, et qui finance beaucoup de gens, notamment en master et doctorat. Et là, souvent, il y a des conditions, en fait, en termes de retour au pays, justement, qui sont attachées. C'est ça que faisait référence Claudia, notamment. Et du coup, pour voilà, quelqu'un qui va apprendre, enfin, je sais pas, faire de la sociologie en France, potentiellement, est censé, à la fin de son doctorat, rentrer en Chine et devenir soit enseignant de sociologie, soit de français. Dans une université chinoise, pourtant un certain nombre d'années. Alors, du point de vue des étudiants, il y en a en effet qui ça pose problème. C'est un financement qui est potentiellement plus facile d'accès que d'autres, donc il le cible quand même. Mais certains essayent, voilà, après au bout d'une année ou deux, de changer de financement pour justement éviter ces contreparties. Deux autres points sur ce type de bourse, je pense, par rapport aux questions que vous avez posées juste avant. Une, c'est est-ce qu'il y a des préférences en termes de discipline, etc. Et c'est vrai qu'il y a quand même beaucoup plus de bourses de ce type qui sont données aux sciences dures. Même s'il y en a quand même pour les sciences humaines et sociales.
Et la deuxième chose... Pour être compétitif dans l'industrie, l'innovation,
voilà,
c'est l'idée.
Exactement, c'est toujours cette idée que c'est surtout de l'innovation technologique qu'on essaye de récupérer, du savoir-faire à l'étranger. Et le côté un petit peu instrumental de ces politiques d'envoi des étudiants. Et l'aspect que Claudia mentionnait, que finalement l'aspect politique... dans la sélection des étudiants auxquels on va fournir la bourse est important, justement, cette question de la loyauté que vous mentionniez. Et moi, j'ai l'impression, en tout cas, en regardant des étudiants, notamment des doctorants qui ont les bourses du CSC, dont je parlais tout à l'heure.
La commission des bourses.
Des bourses du gouvernement chinois. Justement, être membre du parti, avoir été actif, en parler de ses études dans les organisations de jeunesse proches du parti et autres types d'associations proches du parti, sont en fait un critère de plus en plus important, justement, dans la sélection, donc un critère politique.
Le journal allemand Die Welt avait parlé il y a deux ans d'une exigence formulée par le PCC, en tout cas cette commission qui attribue les bourses auprès de ces étudiants qui en bénéficient, donc de ne pas prendre part à des activités qui pourraient nuire à la sécurité de la Chine, mais sans préciser ce qui peut constituer des activités préjudiciables, et certaines sont évidentes, d'autres non. Et le journal Die Welt et tous ceux qui avaient mené l'enquête de dire qu'il y avait, ça créait une forme de terreur aussi chez les étudiants chinois qui avaient toujours peur d'un faux pas. Mais alors, pour rester d'abord sur des considérations très pragmatiques, est-ce que ça sert toujours à quelque chose, entre guillemets, Claudia Starita, pour les étudiants étrangers, les étudiants chinois, d'avoir un diplôme à l'étranger? Est-ce que ça leur ouvre toujours les portes de l'administration, par exemple, quand ils rentrent en Chine, parce que beaucoup se destinaient à ces emplois-là? Est-ce que c'est toujours un plus?
Alors, je pense que les étudiants chinois commencent à réfléchir sur ces points parce que il y a des contraintes qu'ils découvrent à la fin de leur cours qui empêchent, qui ferment certaines portes. Notamment, et je reviens aussi sur ce que disait Jérôme, il y a plus de facilité à donner des bourses sur des sciences dures. Dans tous les études que j'ai faites sur la communauté chinoise en Australie, les étudiants qui travaillent dans ces filières ne se posent pas beaucoup de questions politiques. Donc, ils sont aussi, on dirait à la chinoise, moins perméables à la pollution étrangère pendant leurs études. Ça, c'est un côté extrêmement positif. Par contre, ceux qui font des études en sciences sociales peuvent se retrouver, et j'ai des étudiants qui confirment ça, qui candidatent pour des concours, pour des postes administratifs, notamment dans le ministère des Affaires étrangères. Ça, c'est assez étrange parce qu'on dirait l'ouverture à l'étranger est vue de manière positive. Non, ils ne peuvent pas postuler parce qu'ils sont complétés, ils ont fait tout leur parcours
à l'étranger. Et donc on leur dit, vous êtes devenu trop australien d'une certaine
façon.
On
ne le dit pas. Mais on a quand même ces messages qui est passé, parce que les étudiants qui, au contraire, font un échange d'un an ou deux ans, n'ont pas ces problèmes.
Ça vous est arrivé, Jérôme Doyon, aussi, de rencontrer des étudiants qui étaient dans ce dilemme-là?
Ah oui, c'est omniprésent, enfin, surtout pour ceux qui s'intéressent à la fonction publique en Chine, donc à ces concours où il y a différents modes de recrutement. Cette question de pouvoir prouver sa loyauté est omniprésente, et c'est vrai que quand on est parti trop longtemps, trop jeune, parce que si on part du coup en licence à 18 ans, on est plus malléable que si on part au moment du master 4 ans plus tard, c'est vu comme un problème, et souvent la plupart des postes d'administration publique ne sont plus accessibles. C'est pour ça qu'on va avoir des stratégies individuelles, voilà, de viser des formations du coup plutôt en master plus courtes. Alors les masters d'un an au Royaume-Uni, c'est parfait, ou les échanges de 6 mois ou d'un an, comme ça on peut avoir un peu le tampon de je suis parti à l'étranger, je ramène ces connaissances, sans avoir le tampon plus infamant de je suis influencé par l'Occident et je remets en question la sécurité idéologique, un discours qui revient beaucoup dans le discours officiel du Parti communiste chinois.
C'est qu'il ne faudrait pas s'être trop habitué à la liberté d'expression, ça ferait mauvais genre quand on postule ensuite dans l'administration chinoise. Cette étudiante au King's College de Londres, par exemple, racontait à Al Jazeera, il y a quelque temps, cette différence de pédagogie qu'elle a bien sentie au King's College.
À Londres, les professeurs nous encouragent tellement à exercer notre esprit critique, à être en désaccord avec eux. Alors qu'en Chine, dans mes études, les professeurs se contentent de nous donner des ordres. Tout ce que nous avons à faire, c'est de les écouter, quoi qu'ils disent. Nous ne sommes jamais autorisés à contester leurs paroles et à argumenter.
Vous l'avez senti ça aussi, Claudia Starita, dans les amphithéâtres en Australie, quand vous aviez des échanges avec les étudiants chinois, peut-être une fascination pour cette façon qu'ils avaient de pouvoir s'exprimer, ou au contraire une retenue. Enfin, comment vous parle ce témoignage ?
Alors, la première chose qui m'est venue à l'esprit, c'était ma première heure de cours à Hong Kong. Où finalement je venais de l'Italie, donc j'avais tout un autre parcours universitaire et j'avais en face de moi que des Chinois, parce que tous les étudiants sont chinois à Hong Kong. Et à la fin du cours, deux étudiants sont venus me voir et disent « Est-ce qu'on peut avoir un écrit avec le parti à retenir souligné ?» Et moi, je n'avais rien préparé, parce que normalement, j'improvise un cours. Bon, je prépare, mais je n'ai pas un écrit à lire. Et surtout pas, je n'aurais pas été capable de souligner, comme à l'école primaire, cette phrase, il faut la retenir, cette autre phrase n'est pas intéressante, donc on peut pas. Voilà, donc c'est ça la première chose, la première image à laquelle j'ai pensé. En Australie, bah oui. Après, il faut être très nuancé dans le sens que on part à l'étranger et ça dépend de notre background. Est-ce qu'on sort, on vient de famille avec un niveau d'éducation très élevé ou de toute façon, à la maison, de manière très sécurisée, on développe un esprit critique, on parle des sujets qui sont sensibles et on apprend à comment le faire. Ou on vient d'un autre milieu social et donc toute cette liberté peut être bouleversante. Donc il y a les deux expériences qui peuvent revenir en classe.
Mais est-ce que vous avez déjà eu l'occasion, par exemple dans vos cours, de parler d'événements tels que le massacre de la place de Tiananmen ? Et est-ce que dans ces cas-là, les étudiants les plus, comme vous dites, qui viennent de milieux plus ouverts en Chine et plus éduqués ou plus cultivés, sont au courant de ce qui s'est passé, réagissent ? Enfin, comment se passent les interactions sur ces sujets-là ?
Alors, en classe, non. Parce que ça reste, c'est trop ouvert. Donc c'est mieux, c'est quand même mieux éviter. Et ça dépend de la composition de la classe. J'ai fait beaucoup de recherches donc sur les ressentis des étudiants à l'étranger, des Chinois à l'étranger. Et là, j'ai fait énormément d'interviews avec des étudiants et j'abordais tous ces sujets sensibles. Et les étudiants qui sortent de familles éduquées sont au courant de tout. Donc ils ont une connaissance assez nuancée des événements et les gardent pour eux. Donc ils ne le partagent pas avec personne. J'ai aussi eu des étudiants qui n'avaient aucune idée de ce qui s'était passé en juin 1998. Oui, non, 89. Non, désolé.
Oui, 89. J'ai en français, dire ça.
J'ai le problème. 1989. Et donc, qui ont ou imaginé que c'était finalement la propagande occidentale qui avait toujours été évoquée dans leur parcours en Chine, d'étudiants en Chine. J'ai une étudiante qui a éteint la télé un jour qu'elle a vu la place Tiananmen. Elle pensait que c'était du marketing pour des voyages touristiques à Pékin. Oula, et après, oui. Elle a eu les chars qui rentraient dans la place. Elle a éteint la télé. Et quand elle l'allumait de nouveau, elle pouvait pas croire à ce qu'elle voyait. Elle commençait à chercher des informations, à poser des questions, mais à qui ? Pas à leurs amis, surtout aux professeurs. Et donc là, on disait, oui, bah finalement, c'est la réalité. Il y a eu ça, il y a énormément de ressources à la bibliothèque, allez les chercher. D'autres sont allés chercher chez les parents. Et les parents ont dit, nous, on était là.
ils étaient là à ce moment-là, et c'est là que l'histoire s'est transmise. Exactement. Jérôme Doyon, est-ce qu'en tant qu'étudiant à l'étranger, ces Chinois et Chinoises ont des comptes à rendre, et à qui, c'est-à-dire sur le contenu de leur cours, tout simplement, dans quelle mesure un cours de Claudia Starita ou peut-être un de vous aussi, Jérôme Doyon, pourrait être à un moment, déborder les murs de l'université et atterrir sur le bureau de l'ambassade d'une certaine façon.
Alors ceux qui sont financés justement par le type de bourse dont on parlait tout à l'heure sont censés faire des rapports du coup au département de l'éducation de l'ambassade sur principalement en général sur leurs recherches, etc. Alors ils peuvent parler de leurs cours, ils peuvent être particulièrement zélés et voilà faire des rapports sur ce dont on va parler en cours. Je pense pas que ça soit forcément la norme.
Voilà, c'est là où on met de la nuance, c'est que c'est pas parce qu'on les encourage à le faire qu'ils le font.
Exactement, ça reste des étudiants, ça reste parfois par apathie, parfois par opposition, parfois par stratégie, ils peuvent choisir de le faire ou pas. Mais c'est vrai que, pour revenir sur ce qu'on disait, en général, beaucoup vont venir à l'étranger pour rechercher cette liberté de ton dont on parlait, mais ils peuvent être parfois sous surveillance aussi, quand même. Ouais. Et ça, il y a plusieurs manières, c'est pas toujours des rapports, ça peut être d'autres manières de surveiller les étudiants, on va peut-être en parler.
Lesquelles, par exemple, les associations étudiantes, vous avez commencé à l'évoquer rapidement tout à l'heure, c'est toujours le cas, c'est-à-dire à chaque fois qu'il y a une association étudiante dans une université qui fédère des étudiants d'origine chinoise, on peut se douter qu'elle a des liens avec Pékin, ou au contraire, c'est encore un stéréotype?
Pas toutes. Il y a plein d'études, d'organisations étudiantes qui s'intéressent à la culture chinoise, à la calligraphie, aux arts martiaux, à tout ce qu'on veut en Australie, en Angleterre, en France, qui n'ont aucun lien avec l'État parti chinois, avec Pékin ou avec l'ambassade. Par contre, il y a un système assez structuré où dans tous les pays et toutes les villes, en fait, où il y a beaucoup d'étudiants chinois, il y a une association étudiante chinoise officielle, en fait, qui a des liens avec l'ambassade. Dans le cas français, ça s'appelle l'Union des chercheurs et des étudiants chinois en France. Et du coup, les liens sont pas spécialement cachés, en fait. Et donc, les liens avec l'ambassade sont assez clairs. Leurs activités sont financées par l'ambassade en grande partie. Rendez compte, justement, au département de l'éducation de l'ambassade ou des consulats en fonction du type de ville où ils sont situés. Et voilà, en général, c'est une organisation qui va avoir des branches dans les différentes villes ou universités où on retrouve un certain nombre d'étudiants chinois.
On les a vus, par exemple, ils ont organisé des choses lors de la visite de Xi Jinping en mai dernier à Paris.
Oui, ils ont mobilisé des bénévoles, en fait. Donc, une de leurs grandes... c'est une association qui, principalement, organise des activités culturelles. Là, au moment du Nouvel An chinois, par exemple, ils vont organiser un grand gala, par exemple, au niveau, du coup, à Paris, ou des plus petits, dans les plus petites villes de France, pour inviter, donc, potentiellement des personnalités locales, inviter des dirigeants de l'ambassade ou des consulats chinois, et puis un certain nombre d'étudiants à participer. Mais il y aura aussi, parfois, voilà, des activités un petit peu plus politiques, on va dire. Et donc, là, au moment de la venue de Xi Jinping en 2024, on a... Enfin, moi, ce qu'on m'a dit, c'est qu'il y avait à peu près 700 étudiants qui ont été mobilisés, en fait, pour servir de comité d'accueil.
Avaient la voix,
des drapeaux chinois sur les côtés, rester devant, planté devant l'hôtel où étaient logés Xi Jinping et sa délégation, pour, s'il sortait au cas où, montrer quelques drapeaux chinois. Pour beaucoup, c'est assez... ennuyant, parce qu'ils restent là des heures, ils ne savent pas est-ce qu'il va sortir, est-ce qu'il ne va pas sortir, est-ce qu'on sert à quelque chose. Donc il y en avait 700 au départ, il y en avait beaucoup moins à l'arrivée. Un de leurs rôles aussi importants qu'il faut peut-être noter, c'est de cacher si il y a notamment des mobilisations sur les questions de Hong Kong, du Tibet, du Xinjiang, et justement d'essayer de cacher de la vue des dirigeants ces débordements, en fait.
Un rapport d'Amnesty International à ce sujet, publié aussi en mai dernier, affirmait que des étudiants chinois à l'étranger qui avaient assisté à des cours ou à des événements, par exemple sur Tiananmen, style commémoration, ou des cours sur Taïwan, avaient fait ensuite l'objet de menaces. En fait, leur famille en Chine a fait l'objet de menaces de licenciement, de retrait de prestations retraite ou autre, ce qui aurait même dissuadé, dit Amnesty International, certains étudiants chinois de faire leur thèse, alors qu'on entend bien, à vous écouter tous les deux, qu'il y a vraiment des divergences entre les intérêts du Parti communiste chinois et les intérêts de la société civile et ces étudiants qui viennent surtout pour étudier à l'origine. Est-ce que Claudia Starita, dans quelle mesure la dégradation à la fois de l'image qu'on peut avoir de ces étudiants chinois par tous les rapports qui sortent, les enquêtes, mais aussi des relations diplomatiques quand des états d'accueil l'accueil estime que là, il est temps de prendre des mesures et jusqu'à vraiment priver de visa certains étudiants, comme l'a fait Donald Trump, c'était des milliers en 2020, je crois. Comment ça a des répercussions sur les études de ces étudiants ?
Alors là, je pense que ça peut avoir un impact très fort sur les projets personnels de ces étudiants. Et après, ce qu'il faut considérer, c'est quelles sont les priorités. Donc, est-ce qu'on continue à donner la priorité et la possibilité à ces étudiants de venir dans nos pays, de s'ouvrir à des systèmes différents et essayer de les influencer d'une manière ou de l'autre et d'ouvrir, en tout cas, à leur point de vue et leurs esprits, et imaginons qu'on puisse y arriver. Ou au contraire, on pense que c'est plutôt eux qui peuvent influencer notre manière d'enseigner et donc on préfère les garder à l'écart de la société et leur priver des visas. Ça, c'est une position, je pense, à prendre. Mais la population étudiante est trop diversifiée pour avoir un projet qui...
monolithique.
Exactement, ouais. qui puisse être efficace à tous les niveaux. Par contre, moi, le fait que les étudiants de dénonce ce qui est en cours, ce qui est fait en cours, bah, c'est pas nouveau. Hein. À Hong Kong, il y avait, quand j'étais étudiante, moi aussi, la Student Union organisait énormément d'initiatives pour aller enlever tous les post-it sur ce qu'on appelait les murs de la démocratie. Ça existait là aussi. La statue de Tiananmen, elle était régulièrement enlevée par des étudiants de la Chine continentale quand les étudiants de Hong Kong la faisaient sortir dans la période des commémorations. Et je pense que tout mes collègues à Hong Kong ont été dénoncés par des étudiants pour ce qu'ils ont dit en cours.
D'accord, donc il y a aussi des suspicions entre étudiants, on s'écoute, on se regarde, on se soupçonne. Les gouvernements, eux, ont, dans les états d'accueil, ont pour beaucoup commandé des enquêtes parlementaires. Alors vous étiez, Claudia Astara, en Australie lors de l'affaire Sam Dastyaris, député australien, dont on sait qu'il défendait les intérêts chinois, qu'il a reçu beaucoup d'argent d'un donateur chinois, donc ça avait suscité beaucoup des mois et des enquêtes parlementaires. Au Royaume-Uni aussi, Jérôme Doyon, que vous connaissez mieux, où en est ce débat-là, les enquêtes qui ont été ouvertes pour savoir jusqu'où Pékin avait le bras long pour aller jusque dans les universités britanniques et les grandes écoles.
C'est vrai que c'est un sujet qui est très polarisé, un débat polarisé, et puis qui est très... c'est très difficile de prouver, en fait, ces accusations d'espionnage et d'influence. Alors le débat est plus avancé, c'est vrai que sur cette question-là, au Royaume-Uni qu'en France, notamment parce qu'il y a beaucoup plus d'étudiants chinois au Royaume-Uni qu'en France. En France, on est à peu près 25 000, au Royaume-Uni 150 000. Ils sont une source importante de revenus pour les universités anglaises, qui en fait, si d'un coup on retirait tous les étudiants chinois, il y aurait beaucoup d'universités anglaises qui feraient faillite.
À ce point, vraiment, ça représente
beaucoup
énormément.
De grosses universités. On peut penser à University College London, par exemple, à Londres, qui est une des plus grosses du pays. La proportion d'étudiants chinois est très importante. Et du coup, c'est vrai que cette question de la dépendance des universités à cette manne, et donc potentiellement aux discussions politiques avec Pékin, est importante. Par contre, c'est vrai que moi, j'ai je mettrai un petit bémol sur ces discussions sur l'influence politique chinoise via les étudiants sur le système d'éducation supérieure, que ce soit en France, au Royaume-Uni ou ailleurs. Il faut quand même se rappeler que la première cible, la première victime de ces mobilisations, de ces politiques d'influence, c'est les étudiants chinois eux-mêmes, avant d'être l'université française, l'université anglaise. Et c'est eux qui sont d'abord surveillés, censurés, mobilisés. Et la politique de Pékin, elle vise surtout à ça, en fait, à s'assurer que les ressortissants qui sont à l'étranger restent dans le giron, même si c'est pas toujours facile parce qu'ils sont à l'étranger. L'ambassade ou les structures étudiantes dont je parlais, proches de l'ambassade, n'ont pas forcément les mêmes outils, les mêmes, que ce soit du bâton ou de la carotte, pour les contrôler. Mais c'est quand même ça le principal objectif.
Avec aussi une distinction à faire entre l'éventuelle opération d'influence que mènerait Pékin avec plus ou moins de succès, et puis les affaires d'espionnage aussi qui se sont beaucoup empilées avec là aussi des issues plus ou moins heureuses et parfois aussi des démentis. On avait su par exemple ce jeune doctorant à l'université de Duke, il s'appelait Liu, soupçonné d'avoir volé la propriété intellectuelle d'un laboratoire financé par le ministère américain de la Défense, et c'était l'ancien directeur au FBI de la division du contre-espionnage qui expliquait cette affaire.
Nous savons que les Chinois ont une liste de renseignements et de technologies qu'ils ciblent chaque année. Les recherches que Ruopeng Liu a menées à l'université de Duke figuraient sur cette liste. Et nous savons que certains agents gouvernementaux l'ont rencontré pendant son séjour aux États-Unis. A-t-il été manipulé, approché, compromis, recruté ou subventionné lorsqu'il est revenu en Chine? Je pense que oui.
Alors là, on est encore dans un autre cas de figure. Est-ce qu'on sait d'ailleurs, Jérôme Doyon, sur ce cas en particulier ou d'autres, quand des étudiants chinois sont soupçonnés d'espionnage, si l'enquête finit par les confondre?
Ça, c'est vraiment au cas par cas. Ce cas-là en particulier, je ne sais pas où en est l'enquête.
Il n'a pas été inculpé, ça c'est sûr, mais il a été expulsé de son groupe de recherche, mais pas inculpé.
Mais c'est vrai que souvent, voilà, on a souvent des situations où c'est dur d'inculper, alors même s'il y a en effet des actes d'espionnage avérés, les prouvés. Et puis la différence entre espionnage en tant que tel, espionnage industriel ou circulation finalement de connaissances dans le cadre d'échanges universitaires, parfois la frontière est un petit peu floue et poreuse, et c'est aussi de ça que joue le gouvernement chinois, mais ça rend difficile, et c'est pour ça parfois il faut un peu réfléchir aux outils que peuvent avoir aussi les États occidentaux pour se défendre de ce type d'action. Les politiques publiques du coup de limiter le nombre de visas, etc., dont on parlait tout à l'heure, mises en avant par Donald Trump notamment. Personnellement, je pense pas que ça soit très productif, parce que ça limite juste la circulation pas très ciblée. Mais c'est vrai qu'il faut parfois peut-être réfléchir à comment protéger certaines technologies, innovations qu'on voudrait garder sous le giron national. Donc, ce que fait la Chine par ailleurs.
Protéger certaines technologies et c'est aussi à ce titre-là que Donald Trump avait en pleine guerre commerciale sino-américaine révoqué des milliers de visas délivrés à des étudiants chinois. Donc je profite qu'on soit encore un petit peu aux États-Unis pour vous faire entendre un rappeur qu'a dégoté encore Sam Bakias qui s'appelle MC Jin et cette chanson qui date de 2004, Learn Chinese, où il se moque des préjugés juger sur les Chinois.
Yeah, I'm Chinese, and what? Yeah, you know who this is. Jin, let me tell you this. The days of the pork fried rice and the chicken wings coming to your house by me is over. Y'all gonna learn Chinese. Y'all gonna learn Chinese. Y'all gonna learn Chinese. When the pumps come out, y'all gonna speak Chinese. Y'all gonna learn Chinese. Y'all gonna wanna be Chinese. Y'all gonna learn Chinese. When the pumps go off, y'all gonna speak Chinese. This hip hop shit could fuck up your head, man. I know a bunch of crips that love red, man. Blood walk in New York, man. Things done change. Stop the chinks over the game. This ain't Bruce Lee. I watch too much TV. It's a game of death when I aim for your chest. Yes, too much sex got me seeing slow motion. Eyes barely open with a roach roasting. And your girl, she loves the gin ocean. Rub it on her body like body shop lotion. What's the commotion? You never seen me? Original chinky IMC. You don't wanna step to the army. I'm double R, rank refugee. And the barrel of the gun gonna make you speak another language. And amigo, I ain't talking about Spanish. Y'all gon' learn Chinese. Y'all gon' learn Chinese. From my eye. Y'all gon' learn Chinese. When the pumps come out, y'all gon' speak Chinese. Y'all gon' learn Chinese. Tyler, y'all gon' wanna be Chinese. Y'all gon' learn Chinese. When the pumps go off, y'all gon' speak Chinese.
Learn Chinese du rappeur, auteur, compositeur, acteur et comédien américain d'origine chinoise MC Jin, pardon, qui est connu pour être le premier rappeur solo américain d'origine asiatique à avoir signé dans une grande maison de disques aux États-Unis. Claudia Starita, je voulais juste vous faire réagir à ce que disait Jérôme Doyon juste avant qu'on entende MC Jin sur les règles éventuellement que les États ont mis en place après tous les différents scandales et soupçons qui ont été pour certains révélés quand même, il faut le dire. L'Australie, par exemple, a mis en place des règles.
Tout à fait. Je pense que l'Australie a bien réagi. Ils ont été peut-être les premiers à soulever tous ces grands débats. Et ils ont mis des règles, à l'australienne, je dirais. Donc, c'est-à-dire les étudiants qui dénoncent un cours, un enseignant qui n'utilise pas la bonne narration pour parler de Taïwan, Hong Kong, et qui après vont demander, parce que c'est ça qui est arrivé, vont demander les soutiens de l'ambassade pour faire pression pour l'université, pour faire changer la manière d'enseigner d'un professeur. À un certain moment, les universités étaient dans l'embarras. Et après, ils ont choisi de donner un cadre qui était clair et dont personne ne pouvait aller contre un cadre qui s'était donné à l'université. Pour tous ceux qui recherchent, ils ont demandé à tous les enseignants d'écrire toutes les collaborations. Et après, certaines ont été autorisées par l'université, d'autres ont été coupées. Et donc, comme ça, ils essayent de se protéger.
Donc, davantage de contrôle. Vous écoutez Culture Monde, le dernier épisode de notre série sur les diasporas chinoises. Aujourd'hui, le blues des étudiants chinois en Australie, aux États-Unis, en France, au Royaume-Uni, entre autres. Et en préparant cette émission, nous avons appris l'existence d'une ancienne université franco-chinoise. C'était à Lyon, dans les années 20.
France Culture, Culture Monde, Julie Gacon.
En 1921, précisément, a ouvert au Fort Saint-Irénée, c'est sur les hauteurs de Fourvière dans le quartier de Saint-Just, pour les Lyonnais, l'Institut franco-chinois de Lyon, réservé aux étudiants chinois et qui a fermé en 1950. Bonjour Jacqueline Estran.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes maîtresse de conférence en études chinoises à l'université Jean Moulin Lyon 2. D'abord, pour comprendre pourquoi cet institut franco-chinois a vu le jour en 1921, il faut remonter quelques années plus tôt, à la chute de la dynastie Qing en 1912 et l'avènement de la République de Chine. Quel rôle et quelle mission est alors donné aux intellectuels chinois qui vont se mettre à chercher des coopérations universitaires à l'étranger ?
Oui, juste Lyon 3.
Lyon 3, et ben voilà, c'est corrigé. Je vous en prie, on vous écoute.
Alors, l'histoire de l'Institut franco-chinois doit s'envisager un petit peu avant la chute de l'Empire Qing.
Oui, allez-y.
Mais par rapport au...
Vous avez un petit problème d'écoute, non ? Un petit problème technique ou ça va ? Non, j'ai cru qu'il y avait un petit décalage.
Mais il y a un écho.
Ouais, il y a un écho. Et ben, on va faire en sorte qu'il n'y ait plus d'écho. Est-ce que vous pouvez, je peux demander aux invités en studio de mettre leur casque, s'il vous plaît. Pardon, on règle ça en direct, mais ça a l'air de vous perturber. Dites-nous, sans prendre peut-être trop de temps sur le contexte historique, dès 1912, on a chargé les intellectuels chinois de cette mission d'aller voir à l'étranger ce qu'ils pouvaient faire.
Alors, ça ne remonte pas à 1912. Déjà, à la fin de l'Empire Qing, l'élite progressiste se rend compte qu'il faut que pour aider à la modernisation de la Chine, il faut passer par une réforme de l'enseignement et notamment l'intégration de matières scientifiques qui ne sont quasiment pas enseignées, hormis dans des institutions soit créées par des Occidentaux, soit dans lesquelles les Occidentaux interviennent, comme l'arsenal de Fuzhou, dans lequel des officiers de la marine française vont mettre en place un enseignement des sciences de l'ingénieur qui va avoir un rôle déterminant dans l'intérêt des Chinois pour la France au niveau de l'enseignement supérieur.
Donc envoyer de jeunes Chinois, oui, bah, allez-y.
voilà. Et du fait, et on va notamment avoir Chen Titong, le premier, enfin, qui sera étudiant à l'arsenal de Fuzhou, puis qui se tournera vers la carrière diplomatique, qui va servir de passeur entre les cultures chinoises et françaises, contribuer aussi à sa façon à cette coopération dans le domaine de l'enseignement.
Alors pourquoi se mettent-ils, ces intellectuels chinois, en contact avec la ville de Lyon, qui à l'époque est dirigée par Édouard Herriot ?
Alors, d'abord parce que Paris n'a pas été intéressé par la création de cet institut, qui est conçu effectivement au départ comme une université franco-chinoise ou une école normale, mais qui finalement va surtout servir de lieu de passage pour les étudiants chinois qui vont après intégrer l'université de Lyon. Après, du côté de Lyon, on a eu un intérêt très marqué avec Édouard Herriot, mais aussi Maurice Courant, qui avait fondé une chaire d'études chinoises à l'université de Lyon. Et le recteur de Lyon, Paul Joubin, s'est aussi mobilisé. Et c'est par ailleurs le ministère des Armées françaises a à ce moment-là accepté de donner provisoirement le Fort Saint-Irénée aux instigateurs de cet institut franco-chinois.
D'autant que Lyon est une ville très importante dans le commerce de la soie, les canuts à l'époque. Donc il y a plein d'intérêts de nouer des partenariats avec la Chine. Donc cet institut franco-chinois est créé en 1921, installé dans le fort Saint-Irénée. Qui sont les Chinois qui y ont accès? Est-ce que ce sont d'abord ceux qui sont déjà en France, tous ces étudiants travailleurs, 1600 à peu près, qui sont déjà en France ces années-là, qui sont arrivés, qui travaillent pour la plupart dans des usines? Ou est-ce qu'ils viennent tout spécialement de Chine pour étudier à Lyon?
Alors non, ce ne sont pas les étudiants du mouvement travail-études, pour différentes raisons. Eux auraient voulu pouvoir intégrer l'Institut franco-chinois, mais en fait, alors il y avait un problème de place, hein, comme vous l'avez dit, ils étaient à cette époque-là à peu près 1600. Au final, ce sont plus qui viennent sur la période qui les voit venir en France. Et au Fort Saint-Irénée, la première année, on accueille entre 130 et 140 étudiants. Donc, on n'a pas la place, tout simplement, pour les accueillir tous. Mais surtout, du côté français, on va s'opposer de façon ferme à l'accueil de ces étudiants travailleurs.
D'accord, on s'y oppose parce que, et d'ailleurs eux sont pas contents du tout, il y a une marche qui est organisée sur Lyon, ils sont expulsés de France. Peut-être un petit mot parce que il se trouve que vous avez étudié dans le détail les parcours de certains étudiants, mais surtout certaines étudiantes de cet institut. Si vous deviez nous dire quelques mots de leur parcours en général, mais peut-être en particulier, je pense à Su Chuilin dont vous avez étudié le parcours, qui elle-même avait écrit dans les années 20 un roman inspiré de son expérience à l'Institut franco-chinois où elle racontait une jeune narratrice fascinée par l'apprentissage des drames de Corneille, de Racine, de Rousseau, de Chateaubriand, et qui se disait « Bon, j'ai regretté un jour de venir en France, mais c'est plus du tout le cas, parce que si je n'étais pas venue, je n'aurais jamais pu connaître tous ces chefs-d'œuvre littéraires. » C'est un roman qui était parti dans les années 20. Qui était-elle, Su Chuilin, en quelques mots?
Alors, Su Chuilin, c'était une étudiante de l'École normale supérieure pour filles de Pékin qui a passé un concours pour venir à l'Institut franco-chinois, qui a passé le concours parce que ses camarades le passaient. Elle n'avait aucune envie de venir en France. À cette époque-là, donc en 1921, la France avait une mauvaise image en Chine à cause du sort des étudiants ouvriers, dont on disait, et c'est lié à la Première Guerre mondiale, donc ces étudiants ouvriers disait en fait qu'il mourait de faim en France. Et donc Su Chuilin, dans un premier temps, n'a pas du tout envie de venir en France, même si à l'Institut franco-chinois, les étudiants sont dans un cadre sécurisé. Alors soit ils viennent en finançant en partie, soit ils sont boursiers. Les cas de figure sont assez divers, mais ils ont en tous les cas un endroit où ils peuvent dormir, manger à leur faim et se consacrer à leurs études.
Des études qu'ils avaient pour certains commencé déjà en Chine, certains dans des universités franco-chinoises qui venaient d'ouvrir elles aussi. Beaucoup ont soutenu leur thèse, c'est ce que vous expliquez aussi Jacqueline Estran, 130 sur 170. Est-ce que vous savez ce que ils et elles sont devenus une fois rentrés en Chine, parce que presque tous sont rentrés?
Oui, alors 131 thèses sur 473 étudiants. Donc ils ont pour la plupart eu des carrières plutôt brillantes. Alors dans tous les domaines, hein, en droit, en lettres, en sciences, en médecine, en pharmacie. Parmi les plus connus, même si on n'a pas énormément d'informations sur tous, il y a par exemple Cheng Maolan qui a étudié puis travaillé en France dans l'astrophysique et qui est rentré en Chine en 1957 et a à ce moment-là développé la recherche en astrophysique sur place et contribué à la réalisation de l'observatoire de Pékin. Donc là, c'est un
astrophysicien.
On va avoir également Lin Keming, qui est un architecte formé en France, qui va contribuer à l'urbanisation de Canton et dessiner, hein, les plans de plusieurs bâtiments importants à Canton. on a le poète Dai Wangshu dans, voilà.
Donc il y en a beaucoup sur 470 étudiants, comme vous le rappeliez. Est-ce qu'on sait d'abord ce qu'ils sont devenus lors de la révolution culturelle? Et puis l'Institut a fermé ses portes en 1950, donc 16 ans avant le déclenchement de la vaste attaque contre les milieux intellectuels, les professeurs, les responsables politiques. Et puis, dernière question, pourquoi cet Institut franco-chinois de Lyon a fermé en 1950?
Alors, pour un certain nombre, ils quittaient dans les années 40 ou en 49, ils ont quitté la Chine continentale pour aller à Taïwan ou aux États-Unis, en règle générale. L'un des anciens étudiants de l'Institut franco-chinois a par exemple été ministre de la Justice à Taïwan dans les années 60. Après, ils ont subi un sort qui est... qui a été celui de la plupart des intellectuels de cette époque, sauf peut-être pour ceux qui, comme Cheng Maolan, qui avait un haut niveau de compétences dans un domaine scientifique, ou certains dans le domaine médical, qui ont été un petit peu épargnés.
Merci beaucoup Jacqueline Estran, maîtresse de conférence en études chinoises à l'Université Jean Moulin Lyon 3. Je précise que vous organisez un colloque à Lyon à la fin du mois de mai autour de cet institut franco-chinois des diasporas étudiantes et de la circulation des savoirs entre la France et la Chine. Merci d'avoir été avec nous, Claudia Starita. On entend bien qu'à l'époque, déjà dans les années 20, bon, c'est un cas très particulier, mais les étudiants ne restaient pas très longtemps en France. Là, pour revenir en 2025, comment tout ce que vous avez pu expliquer l'un et l'autre avec Jérôme Doyon depuis le début de cette émission, le fait que leurs études sont de plus en plus courtes à l'étranger, qu'ils se sentent pour beaucoup surveillés, etc., comment ça a modifié leur rapport avec leur pays d'accueil?
Alors, ça a beaucoup changé dans le sens que, encore une fois, je reviens au projet personnel. Les étudiants, de plus en plus, se sont conscients de ce qu'ils aimeraient faire à la fin de leurs études avant de les commencer. Donc, est-ce que ils cherchent à rester dans les pays. Est-ce qu'ils vont tenter l'intégration, vont se sentir acceptés dans les pays, ou ils se disent finalement il n'y a pas de chance pour nous, il vaut mieux qu'on vise un retour dans notre pays et reste pragmatique et y reviennent. Par contre, je trouve que c'est la vague de cette narration anti-Chine qui est devenue encore plus violente dans la période du Covid a vraiment repoussé beaucoup d'étudiants vers leur pays parce qu'ils se sentent plus protégés en Chine qu'ailleurs et ils voient des résistances de plus en plus fortes dans la société d'accueil et donc finalement ils reviennent en Chine. C'est dommage parce que ce sont ces étudiants qui pourraient faire des ponts, des compréhensions, des médiations entre les deux pays.
Et Jérôme Doyon, est-ce que vous avez l'impression que ces étudiants qui restent moins aussi, ça leur ça les bouscule un peu moins dans leur repère culturel, c'est-à-dire qu'ils savent qu'ils ne resteront pas très longtemps, donc même s'ils sont très ouverts à savoir comment vous le disiez tout à l'heure, comment on s'applique à penser et à s'exprimer dans leur pays d'accueil. Finalement, ils savent qu'un jour, ils rentreront en Chine. Donc, c'est un bouleversement peut-être un peu moindre.
Mais ils ne le savent pas forcément en arrivant. Mais c'est vrai que de plus en plus, peut-être la bulle un peu dans laquelle vivent les étudiants chinois se renforce du fait... ce dont on parlait tout à l'heure, c'est-à-dire des volontés de surveillance, de mobilisation venant de l'État parti chinois, de l'ambassade, etc. L'État parti chinois voudrait que ça soit des ambassadeurs, mais eux, bon, ils se voient pas toujours. Souvent, la grande majorité ne se voit pas comme des ambassadeurs. Mais aussi, la bulle, elle se renforce aussi du fait de ce dont Claudia a parlé à l'instant, c'est-à-dire que depuis Covid, on parle d'un virus chinois dans le discours de Trump, etc. On a quand même une montée des discriminations anti-asiatiques en général, notamment aux États-Unis, d'une tension géopolitique qui font qu'ils ont de plus en plus de mal à s'intégrer aussi à cause du pays d'accueil.
Merci beaucoup Jérôme Doyon et Claudia Starita. Merci d'avoir été avec nous dans cette émission sur les étudiants chinois dans les pays étrangers pour clore cette série sur les diasporas chinoises. C'est l'heure de la revue de presse internationale.
France Culture, la revue de presse internationale. Catherine Dutu.
Vous nous emmenez en Allemagne, Catherine, ce matin, où tous les journaux font leur une sur le cordon sanitaire face à l'extrême droite qui s'effiloche.
Un tabou est tombé, souligne la Frankfurter Allgemeine Zeitung. Les conservateurs allemands de la CDU et l'extrême droite de l'AfD ont pour la première fois allié leur voix hier au Parlement afin d'adopter de justesse un texte visant à durcir la politique migratoire. C'est un tournant au Bundestag, titre la Stuttgarter Zeitung, et ce, à quelques semaines des législatives. La motion demande notamment que l'Allemagne refoule à la frontière tous les étrangers sans papier, y compris les demandeurs d'asile. Un texte déposé après une agression au couteau la semaine dernière imputée à un Afghan en situation irrégulière. Une attaque qui a fait 2 morts, dont un enfant de 2 ans. Hier, journée historique pour la candidate à la chancellerie pour l'AfD, Alice Weidel. Constat partagé à l'autre bout de l'échiquier politique par l'actuel chancelier, le social-démocrate Olaf Scholz, comme le rapporte la Frankfurter Allgemeine Zeitung. Un jour tellement historique que Bild en garde la trace précise. Il était 17h38 hier lorsque la vice-présidente du Bundestag a annoncé les résultats. 348 voix en faveur du durcissement migratoire, 344 voix contre. D'abord, les larmes à gauche, chez les Verts, au sein du SPD, poursuit la Süddeutsche Zeitung. L'indignation aussi, ajoute la Frankfurter Allgemeine Zeitung. Puis, la détermination à gauche. Pour Rolf Mützeny, le chef du groupe parlementaire SPD, les élections fédérales du 23 février prochain décideront s'il s'agit simplement d'une erreur irresponsable ou si la chute va se poursuivre. Sur le plateau télévisé du Tagesschau, une éditorialiste estime que le chef des conservateurs a valorisé l'AfD avec ce débat sur l'immigration juste avant les élections du 23 février prochain.
Das Ziel der Rechtsradikalen ist es, die Konservativen zu pulverisieren.
L'objectif de l'extrême droite est de pulvériser les conservateurs, explique une éditorialiste sur le plateau télévisé du Tagesschau. La France et l'Autriche en sont des exemples parfaits. Et en Allemagne, la candidate à la chancellerie de l'AfD, Alice Weidel, fait donc aujourd'hui ce qu'elle fait de mieux. Elle s'en prend à la CDU. Elle met en scène l'AfD, l'extrême droite, comme le parti de la raison qui se place au-dessus des attaques personnelles. Et après ce vote, jubilation, applaudissement au sein de l'AfD, c'était le but de l'exercice, explique encore le Tagesschau. Impossible d'estimer l'ampleur des conséquences de ce vote d'hier, prévient la Stuttgarter Zeitung, car quiconque entrouvre la porte de la coopération avec l'extrême droite doit craindre qu'elle ne soit un jour ou l'autre puissamment enfoncée.
Car l'histoire l'a prouvé, Catherine.
C'est ce que rappelle Bild. Et le quotidien s'indigne avec la Süddeutsche Zeitung de voir ce vote survenir le jour même où le Bundestag, la chambre basse du Parlement allemand, rendait hommage aux victimes du Troisième Reich. En cette semaine de commémoration aussi de l'ouverture et de la libération des camps de concentration et d'extermination, comme le note Bild. Depuis la Seconde Guerre mondiale, les partis modérés traditionnels ont toujours exclu toute coopération avec l'extrême droite au niveau fédéral, le fameux cordon sanitaire. C'est ce qu'ont rappelé plusieurs centaines de manifestants hier soir à Berlin, en se rendant au siège de la CDU à Berlin, explique le Tagesschau. Il ne faut pas céder aux sirènes de l'extrême droite, de plus en plus décomplexée, affirme Die Tageszeitung et Netzpolitik.org, un site d'information sur les droits numériques qui a analysé la stratégie de dog whistle, de sous-entendu de l'extrême droite, pouvant être compris par un cercle d'initiés. Le slogan de la campagne électorale de l'AfD, Alice für Deutschland, Alice pour l'Allemagne, fait non seulement référence au prénom de la candidate d'extrême droite à la chancellerie, Alice Weidel. Mais ce slogan ressemble aussi, au niveau sonore, à Alles für Deutschland, le slogan DSA, comme le décrypte Die Tageszeitung.
Et aux États-Unis, c'est un autre volet de cette politique anti-immigration. Donald Trump veut faire de la base américaine de Guantanamo un centre de rétention géant pour migrants.
Pour 30 000 sans-papiers, c'est ce qu'il a annoncé hier. Alors on ne sait pas comment ce plan sera mis en place, indique le New York Times, mais Donald Trump prépare un décret sur la base navale de Guantanamo, bien connue pour sa prison militaire ouverte après les attentats du 11 septembre, synonyme de torture des prisonniers. Il s'agit de détenir aujourd'hui les plus grands criminels, des immigrés clandestins qui menacent le peuple américain, a déclaré Donald Trump, cité notamment par CBS News. Casse-tête logistique, Guantanamo, au sud-est de Cuba, Cuba est un site isolé, explique le New York Times. Faire entrer et sortir des matériaux des personnes serait un cauchemar. Selon une ancienne responsable de la police des frontières sous l'administration Biden, question encore plus compliquée, explique le New York Times, si des hommes, des femmes et des enfants s'y retrouvent. Alors le site pourrait être agrandi avec l'aide de l'armée, mais le Washington Post estime que retenir des sans-papiers à Guantanamo pourrait rendre encore plus difficile l'accès des détenus à des services consulaires, des services juridiques.
Merci beaucoup Catherine Dutu. Demain, vous retrouverez Mélanie Chalandon comme chaque vendredi pour une table ronde d'actualité consacrée au conflit ouvert qui s'annonce comme ouvert entre la République démocratique du Congo et le Rwanda avec Joanne Tillouine et Christophe Vogel. Une table ronde précédée d'un retour de Serbie où le Premier ministre a démissionné hier sous la pression de la rue avec Tara Mirković du Courrier des Balkans.